Il est 8h.
Nous sommes prêts à partager notre expérience et la fourniture à d'autres pays de vaccins russes qui ont prouvé fiabilité, sécurité et efficacité.
Il n'était pas peu fier en septembre, Vladimir Poutine, de proposer, comme s'il voulait rendre service, son vaccin à toute l'humanité. Après l'Algérie, la Tunisie, les Émirats et même la Hongrie, le vaccin Sputnik V va-t-il être mis sur orbite par l'Allemagne intéressée ? Nouvelle illustration d'une pandémie qui rebat les cartes géopolitiques. Dans ce journal, le récit d'un petit patron qui a découvert la précarité et a dû demander de l'aide pour payer son loyer, la droite française et son projet alternatif contre les séparatismes, et puis le château de Chantilly, désert, sans touristes et sans le sou. Reportage et Stéphane Bern avec nous pour voir si on peut sauver ce joyau français de la faillite.
Juste après ce journal, les questions sont nombreuses évidemment autour des vaccins, leur distribution, leur efficacité face aux différents variants. Israël vaccine massivement et fait le choix de prolonger son confinement. Quelles leçons tirer de l'expérience israélienne ? En duplex de Tel Aviv, le professeur et immunologue Cyril Cohen, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sputnik V ou Sputnik V, V comme vaccin et Sputnik comme le célèbre satellite soviétique, première étape de la conquête spatiale en 57. Aujourd'hui, en pleine pandémie, la Russie arrive un peu après les Américains et le déploiement massif de leurs produits Pfizer et Moderna. Mais au moment où l'Europe cherche désespérément des doses, les Russes frappent à la porte.
On va retrouver Hélène Kohl à Berlin car notre voisin soutient la demande d'homologation du vaccin russe.
Côté allemand, on est pragmatique. Il n'y a pas assez de vaccins sur le marché actuellement, donc toute arrivée supplémentaire de doses est bonne à prendre. S'il est prouvé que le vaccin est sûr et efficace, a quand même tenu à préciser le ministre allemand de la Santé hier. Mais en clair, si l'Agence européenne du médicament donne son feu vert, alors aucune raison de bouder les propositions de contrat des Russes ou même des Chinois. Et cela va même plus loin puisque l'Allemagne assiste actuellement Moscou dans ses démarches d'homologation du vaccin Sputnik. Concrètement, c'est une aide surtout administrative pour monter le dossier. Cela se passe par visioconférence. Les experts allemands de l'Institut Ehrlich, l'équivalent de l'Agence française de sécurité du médicament, décryptent pour les Russes les normes européennes de fabrication et de distribution des vaccins et les guident dans les différentes réglementations. Au bout du compte, il y a 100 millions de doses de vaccins à la clé disponibles dès le printemps. Elles seraient réparties entre les pays de l'Union européenne. Le vaccin Sputnik fait partie des moins chers. Il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température. D'après les essais cliniques, il est efficace à 90%. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Alors si l'argent n'a pas d'odeur, les vaccins ont-ils un drapeau ? On attend de voir si la France sera sur la même longueur d'onde que l'Allemagne. Emmanuel Macron, en tout cas, était hier avec son homologue serbe sur le perron de l'Elysée et il se contente pour l'instant de souhaiter que l'Europe aille plus vite pour ses propres vaccins.
Nous, Européens, devons aussi avoir encore plus d'efficacité sur ce sujet. Je sais que c'est également la volonté de la chancelière Merkel, de la présidente von der Leyen, et nous continuerons dans les prochaines semaines et les prochains mois à accélérer les choses pour aller plus vite sur ce sujet à l'égard de nos populations, mais mieux accompagner aussi nos amis.
Le président français, situation ironique avec cette autre déclaration, celle du ministre britannique de la Santé hier, Matt Hancock.
The vaccination program is going very well. And in fact, we've vaccinated more people in just the last 3 days than France, for instance, has in the entire history.
Nous avons vacciné plus de gens en 3 jours que la France dans toute l'histoire de la vaccination française contre le Covid-19. Se réjouit un petit peu moqueur,
le ministre britannique.
Hancock. La pandémie et son impact sur le terrain économique. L'industrie française encaisse le choc. C'est le titre à la une des Échos, car au total, entre celles qui ferment, celles qui se créent, la France a perdu 22 usines l'an dernier. 22 seulement, pourrait-on dire.
Trois fois moins de destruction d'emplois industriels qu'après la crise de 2009. Les aides publiques ont joué, nous disait Nicolas Barré dans son éclairage éco à 7h15.
Cette information, Europe 1, à propos des aides, le gouvernement pourrait prendre en charge les frais fixes des entreprises touchées par les fermetures administratives jusqu'à 10 millions d'euros désormais et non plus seulement 3 millions. Et alors que la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, annonce dans Le Parisien ce matin la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 1er juin, on se rend compte que la précarité causée par la crise touche même des profils de patrons.
Et on s'en rend compte avec le témoignage de Damien Depouteau, 51 ans, co-gérant d'une société d'événementiel dans la région de Rennes. Aujourd'hui, il doit changer de logement.
La bascule a été hyper rapide. On n'avait plus d'événements, donc on ne rentrait pas d'argent. Il faut savoir que dès le mois de mars, on était à 0 euro de chiffre d'affaires que générait la société. Eh bien, en novembre, je me suis retrouvé sans aucune économie. toujours avec une entreprise à l'arrêt, donc plus d'argent pour vivre et pour me loger. Alors j'ai fait appel donc à un service d'aide au logement, l'ADIL, qui m'a aidé à pouvoir payer mon loyer de novembre et décembre que je ne pouvais plus payer par manque d'argent. Quand tout fonctionne bien, un loyer à 950 euros, ça se passe bien. Là aujourd'hui, n'ayant plus de revenus, donc je suis en train de faire des démarches pour trouver un loyer beaucoup moins élevé.
Damien de Pouteau au micro Europe 1 de Charles Guyard. Cette information qui intéressera les parents. On le disait à 7h, ce gros changement dans les protocoles sanitaires à l'école maternelle. Désormais, une classe sera fermée dès qu'on y détecte un cas, un seul cas de virus, quel qu'il soit. Quant aux primaires, collèges et lycées, il faudra un cas de variant du virus et ce sera une fermeture.
8h06 sur Europe 1. Le projet de loi sur le séparatisme examiné depuis hier à l'Assemblée, avec aujourd'hui la présentation par les députés et les Républicains de leur contre-projet.
Oui, Aurélie Herbemont pour Europe 1 a sondé le parti de droite.
Si chez LR, beaucoup ont été séduits par le discours des Mureaux, ils se disent aujourd'hui déçus d'un projet de loi frileux, d'où leur contre-projet. Les députés LR mettent ainsi la question de l'immigration sur la table. Ils réclament des quotas pour la restreindre. Dans ces 40 propositions, la droite cible aussi le voile, interdiction pour les mamans accompagnatrices de sorties scolaires ou pour se rendre dans les services publics. LR veut également bannir les signes religieux ostensibles pour les mineurs, mais comme dans tous les groupes, il y a des nuances. L'interdiction du voile à l'université ne devrait pas figurer dans le contre-projet, confie une élue. Ils ont aussi dû faire la synthèse sur l'instruction en famille, en préconisant surtout plus de contrôle. Si le gouvernement n'accepte aucune proposition, on votera contre leur loi, prévient un député, car LR veut afficher sa fermeté à l'approche de la présidentielle et montrer qu'Emmanuel Macron ne mène pas une politique de droite.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Je vais vous décrire une carte postale. Un château renaissance entouré d'eau. On n'est pas du côté de la Loire, mais au nord de Paris. Le château de Chantilly, qui est aussi au bord de la faillite. Il appelle l'État au secours après une campagne de dons, 100 000 euros, très en dessous de ce qu'il faudrait. Diane Chenouda, vous étiez hier soir en reportage à Chantilly.
Oui, personne dans l'immense parc payant, ouvert au public.
C'est très calme, il n'y a personne.
Personne non plus dans la boutique du château.
Non, non, c'est une catastrophe là.
Et oui, le château de Chantilly a été fermé 5 mois en 2020, alors que la billetterie est sa principale source de revenus. Résultat, plus de 6 millions d'euros de pertes, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Un déficit qui se creuse chaque jour, puisqu'on ne sait pas quand il rouvrira. Situation alarmante, car le domaine n'est ni privé, ni public, et ne peut donc toucher aucune aide de l'État, comme l'explique Christophe Tardieu, l'administrateur général.
C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on ne peut pas bénéficier des aides pour le privé, on ne peut pas bénéficier des aides pour le secteur public. Et pendant ce temps-là, on a zéro recette. On continue naturellement à payer les charges. Hein. On continue à payer nos 130 salariés. On continue à chauffer le château. On n'a aujourd'hui que des charges et aucune recette. Ce qui fait que fin mars, on n'a plus d'argent dans la trésorerie. C'est-à-dire que Chantilly, fin mars, début avril, si rien n'est fait, sera quasiment en cessation de paiement.
Et il espère bien obtenir d'ici là une aide exceptionnelle de l'État pour sauver le château de Chantilly.
Un reportage en direct de Diane Chenouda.
Stéphane Bern, rebonjour.
Rebonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous le connaissez par cœur hein, ce château, et même oui. Chantilly, en prononçant ce nom, on se rend compte que c'est un mot magique. Connu dans le monde entier.
Oui, ne serait-ce que parce qu'il y a 350 ans, cette année, eh bien, il y a eu ce fameux dîner de Vatel, vous savez, pour la réconciliation du Grand Condé et de Louis XIV. D'ailleurs, au cours La Marée n'arrivant pas, Madame de Sévigné raconte que Vatel s'est suicidé. Il y a eu un très beau film avec Gérard Depardieu qui raconte cette histoire. Non, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'est la situation, ce que disait David Chenouda, très juste, c'est sa situation particulière. Il appartient à l'Institut de France. Il a été légué par le duc d'Aumale, le dernier des fils de Louis-Philippe, avec des conditions d'ailleurs suspensives. C'est-à-dire que si jamais les conditions ne sont pas remplies, par exemple, c'est le deuxième musée de peinture de France après le Louvre. Les gens n'imaginent pas les Trois Grâces de Raphaël. Vous avez une collection de peintures, mais unique au monde. Eh bien, si vous touchez l'accrochage, si vous touchez un tableau de l'accrochage, eh bien, vous perdez l'héritage du duc d'Aumale. Ah oui. Donc, l'Institut de France est Xavier Darcos, le grand chancelier, sont très contraints par le testament du duc d'Aumale. Alors, je ne sais pas, il faut trouver une solution. En boutade, Xavier Darcos m'a dit l'autre jour, j'ai peut-être vendre les codex de Léonard de Vinci pour payer, mais on en est là.
Oh, ça serait terrible.
Ça serait terrible.
Oui, on en est là.
Mais plus sérieusement, au-delà de vendre des petites pièces, vous avez une solution, Stéphane Bern. Vous êtes le patron du patrimoine aujourd'hui en France.
Ce qui est compliqué, c'est
ce loto qu'on a choisi ce matin, notre loto à nous du patrimoine ce matin, c'est Chantilly.
Vous avez tout à fait raison. La question qui se pose, c'est que l'État y participe, déjà la région y participe avec la DRAC, etc. Et l'État ne veut pas faire plus puisque ça appartient à une fondation, un institut, l'Institut de France. La fondation qui jusqu'à présent faisait les travaux, c'était celle de l'Agacan. Et l'Agacan s'est retiré en 2020. C'est lui qui épongeait les dettes et finançait les travaux. Alors, la seule chose qu'il faut faire, la solution, c'est rouvrir d'urgence les musées. Enfin, pardon, mais il n'y a aucun risque de contagion, de contamination. Ce qui est incroyable...
C'est un appel que vous lancez ce matin,
c'est
Stéphane,
un appel que je lance. Je l'ai fait dans Le Monde avec quelques autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, il y a le musée de Sèvres, par exemple, a une exposition qu'on ne peut pas visiter. Eh bien, ils sont allés dans une galerie marchande à Paris faire l'exposition. Et là, tout le monde peut y aller. On peut aller visiter n'importe quelle galerie d'art pour acheter un tableau, mais on ne peut pas visiter Chantilly pour voir les merveilles de Botticelli, de Raphaël et des autres. Ça me paraît complètement incompréhensible.
Stéphane Bern et Diane Chenouda aussi.
Alors
Stéphane,
que les espaces sont immenses, effectivement.
Et en direct ce matin dans le journal de 8h, échange aussi avec Monsieur Patrimoine, Monsieur Historiquement Vôtre. Je n'oublie pas Historiquement Vôtre, 16h-18h avec Mathieu Noël sur Europe 1 tout à l'heure. Mille merci Stéphane. Merci.
On parlait vaccin et conquête spatiale tout à l'heure. Eh bien, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, prévoit d'envoyer ses premiers touristes fin 2021. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est à peu près le calendrier prévu de Sanofi pour son vaccin. Et d'ailleurs, comme pour le vaccin, on peut tenter de s'inscrire sur Internet pour cette mission de quelques jours. Inspiration4.com, allez-y.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors vous le savez, les pays qui vaccinent le plus rapidement et massivement sont pleins d'enseignements sur l'efficacité des vaccins, le taux de contamination, les profils aussi des hospitalisés. On va prendre, si vous le voulez bien, la direction ce matin d'Israël. Mon invité est au cœur de la stratégie vaccinale du pays, le professeur et immunologue Cyril Cohen.
A tout de suite, il est 8h12.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël.
Oui Mathieu, parce qu'Israël vaccine rapidement et massivement. Pour autant, le pays connaît une situation préoccupante, alors on a envie de comprendre ce qui s'y passe. L'entretien avec le professeur Cohen a été enregistré il y a quelques instants de Tel Aviv. Bonjour professeur Cyril Cohen.
Bonjour Sonia.
Vous êtes immunologue, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan à Tel Aviv. Vous êtes également membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins. Alors professeur Cohen, dans le monde entier, on vante la campagne de vaccination israélienne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est à l'heure actuelle le pourcentage de la population qui était vaccinée en Israël ?
Eh bien aujourd'hui, ce matin, on parle à peu près de 36% de personnes qui ont déjà reçu au moins une dose. Et là, on a dépassé en fait les 20% de personnes qui ont déjà reçu les deux doses. Donc ce sont des chiffres très, pour nous, qui sont très encourageants.
Très encourageants. Et justement, est-ce que la baisse des hospitalisations de près de 60%, on avait dit des plus âgés, des aînés, est-ce qu'elle se poursuit ? Est-ce qu'elle se confirme, professeur Cohen ?
Oui, donc c'était une tendance que l'on avait vue il y a à peu près 2 semaines, cette petite baisse. Et puis, bon, c'est remonté. Mais là, aujourd'hui, on voit quand même une baisse, je dirais, d'à peu près 20-30% ces derniers jours. Il faut dire qu'en en parallèle, on voit une montée malheureusement des jeunes qui sont hospitalisés. Donc, si on ajoute ces deux résultats, en fait, on ne voit pas une baisse suffisamment forte aujourd'hui pour désengorger nos hôpitaux, mais on commence à voir, je dirais, une tendance et cela nous encourage.
L'hospitalisation des plus jeunes, professeur Cohen, est-ce que vous la mettez en relation avec la propagation du variant et notamment du variant britannique ?
Oui, totalement, totalement. Ce qui est en train d'arriver, là, on a nos derniers chiffres qui prouvent que aujourd'hui le variant britannique qui est le variant qui domine l'infection en Israël. On parle d'à peu près plus de 70% des infections sont dues à ce variant. On sait qu'il se propage très très rapidement. Il est beaucoup plus contagieux que la souche originale. Et donc ce qui est en train d'arriver, c'est que les jeunes sont beaucoup plus touchés par ce variant. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi on en voit plus aussi dans les hôpitaux.
Pour les personnes vaccinées, et je dis bien avec les deux doses, professeur Cohen, quel est le taux d'infection au sein de cette population ?
Ben écoutez, nous, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on se base aussi sur les résultats des hôpitaux. Si vous prenez aujourd'hui les gens qui sont en hôpital, en état critique ou sévère, on voit qu'en fait, si on les divise, il y a 56% qui n'ont pas été vaccinés, 42% qui ont reçu une dose, donc vaccination partielle, et seulement 2% de ces gens, en fait, sont des gens qui ont été vaccinés. Donc, on est enclin à penser que cette vaccination commence à avoir des effets. D'autre part, je dois vous dire aussi que dans des localités où on a beaucoup vacciné, on voit que, en fait, la vaccination empêche la maladie et l'hospitalisation. On a des localités en Israël où il y a pratiquement 100% des plus de 60 ans qui ont été vaccinés. Et dans ces localités, on voit une chute de 40% au niveau des hospitalisations.
Oui, donc une barrière à la maladie et à l'hospitalisation. Mais, professeur Cohen, la grande inconnue reste la transmission ?
C'est une excellente question, exactement. Nous ne savons pas pour l'instant, et il faut dire que nous ne savons pas si le vaccin empêche la transmission ou ne l'empêche pas, c'est ce qu'il faut dire. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train d'étudier cette question parce que comprendre si le vaccin empêche la transmission, c'est vraiment essentiel si on veut arriver à ce qu'on appelle l'immunité collective.
Bien sûr. Et combien faut-il, professeur Cohen, de temps à un citoyen israélien pour prendre un rendez-vous avant de se faire vacciner et avec les deux doses ?
Vous êtes sûr que vous vouliez que je vous le dise ? Ça nous prend à peu près...
Oh oui, professeur, on a besoin parce qu'on a besoin de se comparer.
Eh bien, en fait, ça nous prend à peu près entre 1 et 2 minutes. On rentre tout simplement soit par notre téléphone, soit sur Internet. On rentre dans notre site. Vous savez, on est tous divisés dans différentes... Tout est numérisé en Israël. On est tous en 4 caisses de maladies. En fait, ça nous prend entre 1 et 2 minutes pour fixer vos 2 rendez-vous, en fait. Parce qu'automatiquement, quand vous prenez votre premier rendez-vous, on vous réserve aussi votre deuxième rendez-vous à 3 semaines d'intervalle.
Le gouvernement israélien a commencé les achats de vaccins dès le mois de juin dernier, alors que les essais cliniques n'étaient même pas encore terminés. Est-ce que c'est ça la clé de la célérité, de l'efficacité aujourd'hui de votre campagne de vaccination ?
C'est un pari.
C'est un pari aussi, professeur.
Et c'est un pari que l'on a pris parce qu'on a très vite réalisé qu'en fait, il serait très dur de combattre cette pandémie. On n'a pas les moyens qu'ont d'autres pays, je dirais, comme des pays totalitaires, quelquefois comme la Chine ou même la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas un pays totalitaire, où ils ont fermé tout simplement, je dirais, leurs frontières, ou par exemple en Chine, où ils font vraiment des confinements véritables. Donc ça, on ne l'a pas. D'un autre côté, on ne voulait pas, je dirais, tout laisser ouvert, parce qu'on est conscient du prix que cela nous aurait coûté. Donc en fait, notre stratégie, c'était confinement et en parallèle, espérer avoir des vaccins. Et donc très très rapidement, Israël a mené des négociations avec plusieurs compagnies, avec Moderna, avec Pfizer, avec AstraZeneca, et nous avons signé des contrats. On a donné vraiment beaucoup de garanties d'avance, on a payé même à l'avance sans savoir si ces vaccins seraient, je dirais, efficaces ou pas.
Oui, un vrai pari de payer à l'avance alors que les tests n'étaient pas terminés, et aussi de payer plus cher, professeur Cohen. Israël aurait payé plus cher pour être servi. D'ailleurs, c'est l'art de la négociation, peut-être plus vite. Est-ce que vous le confirmez ?
Non, ça, je ne peux pas le confirmer. Nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas de données. Je sais que ce sont des choses qui ont été mentionnées dans les médias, mais je vous dis sincèrement, je n'ai pas de données solides à ce niveau-là.
Malgré, professeur Cohen, cette campagne intensive qui, rappelons-le, s'effectue sur une population de 9 millions, un peu plus de 9 millions d'habitants, le confinement a été prolongé. La situation sanitaire reste préoccupante à cause de ce variant anglais ?
Oui, je dois vous dire qu'on est très très inquiet par rapport à ce variant britannique. En fait, on est vraiment dans un système où d'un côté, imaginez, c'est un peu comme un seau d'eau qu'on essaye de remplir, mais il y a des trous et on n'arrive pas à le remplir parce que en fait, ces trous laissent sortir l'eau. Et donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que d'un côté, on vaccine et on vaccine bien. On espère que d'ici 2 semaines, à peu près 2-3 semaines, on verra vraiment, je dirais, une majorité de la population après les 2 doses. Et après, il faut dire aussi au moins 1 ou 2 semaines qui sera protégée. Et de l'autre côté, donc on a a cette stratégie de vaccination, mais on a aussi le problème du variant britannique qui vraiment, je dirais, se répand très très rapidement. Si jusque, je dirais, à mi-décembre, même fin décembre, on ne voyait pas beaucoup de cas, aujourd'hui, je vous le dis, on a dépassé les 70% des infections qui sont dues à ce variant. Et c'est très très, je dirais, très très contagieux.
Et est-ce que la population, dans son ensemble, respecte les gestes barrières? En particulier pour les juifs orthodoxes, il y a eu ces images qui ont été vues dans le monde entier de funérailles où on a vu beaucoup de personnes ne respectant pas les gestes barrières, ne portant pas aussi parfois les masques.
Oui, malheureusement, il y a certaines, je dirais, minorités ou certains secteurs dans la population israélienne qui respectent moins ou qui ne respectent pas. Et c'est vrai que ce sont en général les secteurs qui sont aujourd'hui les plus touchés par cette pandémie, et c'est très grave, malheureusement. C'est grave pour eux, c'est grave pour nous. Nous sommes un seul pays, nous vivons tous ensemble. Et à ce niveau-là, justement, ça, c'est une question, je dirais, qu'il va falloir régler et essayer de sensibiliser ce public et lui faire comprendre. Une fois de plus, ce sont des minorités parmi ces secteurs, mais leur faire comprendre que c'est très important qu'il faut respecter ces gestes barrières et aussi se faire vacciner parce que c'est une population qui se fait aussi moins vacciner.
Quel est votre regard à vous sur notre campagne vaccinale française? Les retards, les bugs, la stratégie elle-même est très critiquée. Est-ce que vous avez un regard un peu plus distancié probablement que nous?
Écoutez, il n'est pas facile lorsqu'on n'a pas un système numérisé de mettre en pratique une telle campagne de vaccination qui est pratiquement, je vous le dirais, c'est un combat. On est vraiment dans une guerre. Donc je regarde un peu les choses de mon côté. Je vous dis, je discutais avec un ami à moi, j'ai trouvé une chose ahurissante qui ne serait jamais arrivée en Israël. Il me racontait que son oncle qui habite en Alsace a pris 3 rendez-vous d'affilée pour aller se faire vacciner. Il a 89 ans. Cette personne est sortie de chez lui pour aller se faire vacciner. Au premier rendez-vous, on lui a dit qu'ils annulaient son rendez-vous après qu'il soit arrivé justement se faire vacciner. Au deuxième et troisième rendez-vous, lorsqu'il est arrivé se faire vacciner, on lui a tout simplement dit qu'il y avait un flacon de vaccin, mais vu qu'il était tout seul, qu'il était resté tout seul, cette personne, il n'ouvrirait pas ce flacon pour cette personne. Ça, c'est une chose qui n'arrive pas en Israël. Et c'est très grave, c'est triste. C'est une chose qui n'arrivera pas. Aujourd'hui, en Israël, nous avons des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Vous voyez même les gens qui, en fait, ne sont pas dans les groupes que l'on vaccine aujourd'hui, qui font la queue en fin de journée jusqu'à 9h, 10h. On vaccine 24 heures sur 24, non pas 24 heures sur 24, mais pratiquement 7 jours sur 7 en Israël. Et donc, on ne gaspille pas une seule goutte de vaccin. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes.
Qui vaccinez-vous? Parce que vous parlez des groupes et on voit que la stratégie vaccinale est très efficace et rapide. Mais sous la pression de l'ONU, Israël a indiqué qu'il allait fournir désormais 5000 vaccins à son voisin palestinien. Alors 5000, c'est symbolique. Pourquoi ne pas aider davantage et vacciner cette population palestinienne?
Tout d'abord, je trouve que ce n'est pas un geste symbolique, hein. c'est un beau geste. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les nations vaccinent en priorité leurs citoyens. Hein. Il en est de même en Israël. Nous vaccinons tous nos citoyens, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, c'est très important de le dire. La mortalité, il faut aussi le dire, due à la Covid-19 chez les Palestiniens en Judée-Samarie, est moindre qu'en Israël. Ils ont réussi, et ça, je trouve ça très très bien, ils ont réussi à freiner aussi leur troisième vague de manière spectaculaire. Mais nous avons aussi...
Oui, mais professeur, il y a une vaccination à double vitesse, malgré tout. Hein. Israël vaccine à tout va, et chez les habitants de Cisjordanie et de Gaza, c'est presque des oubliés aujourd'hui.
Bien sûr, mais je dois dire que nous avions proposé notre aide à l'autonomie palestinienne en décembre, et ils l'ont refusé. Bien que nous aidions les Palestiniens tout au long de l'année, nous traitons en Israël à peu près 150 000 Palestiniens pour différentes maladies tous les ans. Donc il faut dire qu'ils sont autonomes au niveau des accords qu'on a signés, au niveau sanitaire. Nous respectons cela, mais il faut dire aussi qu'ils reçoivent les vaccins Sputnik par la Russie. De toutes les manières, je dois vous dire, on est convaincu qu'en Israël, il faudra vacciner le maximum de personnes dans la région, dans le monde, pour aider à freiner cette pandémie. Et c'est la raison pour laquelle Israël soutient le programme COVAX sous l'OMS pour aider tous les pays qui en auront besoin. C'est vraiment un effort international que je loue. Et j'espère sincèrement que nous vivrons tous des jours meilleurs rapidement.
Et on l'espère tous ensemble, évidemment. Le vaccin est ou devrait être en tous les cas un bien commun. Ça, c'est un message essentiel. Merci beaucoup, professeur Cohen. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné, évidemment, ce regard sur votre pays, Israël, avec une campagne de vaccination certes efficace, mais vous l'avez dit, malheureusement aussi, des contaminations en très grand nombre. Merci encore.
C'est moi. Merci.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre les infos. Jérôme Lacroix et la météo, Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est presque 8h30, un nouveau journal avec Jérôme Lacroix.
Le soulagement à Argentat-sur-Dordogne, pas très loin de Tulle, la décrue de la Maronne, proche rivière, est amorcée depuis plusieurs heures. 150 habitants avaient été évacués cette nuit par précaution, crainte d'une montée des eaux. Ils ont pu rentrer chez eux. La Corrèze reste sous surveillance. L'épisode de pluie n'est pas terminé, mais le département n'est plus en vigilance rouge au cru. Il est repassé en orange, comme 18 autres départements, principalement dans le sud-ouest. C'est le cas de la Gironde, où vous vous trouvez Stéphane Place, correspondant d'Europe 1. Vous êtes sur le bassin d'Arcachon. Il a beaucoup plu ces dernières heures et le quotidien des habitants chamboulés.
Oui, pour l'instant, il ne pleut pas à Biganos où je me trouve, mais le répit devrait être en principe de courte durée avec de nouvelles précipitations attendues aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon. Sur des terres, il faut bien le comprendre, déjà gorgées d'eau avec des coefficients de marée qui demeurent importants, des nappes phréatiques très hautes, affleurantes à la surface, sans oublier des surcotes qui peuvent provoquer des submersions marines. Résultat, l'eau ne s'évacue plus du tout. Sabine Jeandenant, la directrice du CIBA, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon.
Vu le niveau d'eau, les écoulements qui viennent de la terre et qui vont naturellement vers la mer ne peuvent plus s'écouler vers le bassin d'Arcachon. Il y a de l'eau dans les jardins, devant la maison. La plupart d'entre nous, nous n'avons plus l'utilisation de nos sanitaires.
En clair, les eaux usées ne s'évacuent plus. Vous prenez une douche, vous allez aux toilettes.
Ça peut être le cas, effectivement. Les eaux usées peuvent ne pas s'évacuer. Là, c'est la guerre, quoi. Non, sur une aussi longue période, on ne l'a pas connue, en fait.
Pompes auxiliaires installées, techniciens mobilisés en permanence. Demain, en principe, les précipitations devraient cesser ici, mais il faudra bien une semaine pour retrouver un fonctionnement normal des réseaux actuellement saturés.
Stéphane Place, en ligne du bassin d'Arcachon pour Europe 1. Se dirige-t-on vers une cascade de fermetures de classes dans les établissements scolaires face aux variants du Covid ? Protocole sanitaire durci depuis hier. En maternelle, fermeture de la classe dès la découverte d'un cas de Covid-19. Même règle en primaire, collège et lycée, cette fois-ci si un cas de variant est découvert. Près d'1,5 million de personnes ont désormais reçu une première injection de vaccin. Et aujourd'hui, la France devrait bénéficier d'un troisième sérum, celui d'AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé doit rendre son avis aujourd'hui sur le laboratoire anglo-suédois avec un questionnement. Victor Dolande, les plus de 65 ans seront-ils éligibles ?
Oui, le vaccin AstraZeneca est efficace à 70%, mais il y a un débat sur l'immunité pour les personnes de plus de 65 ans. Le laboratoire assure que l'efficacité est la même pour tous, mais il n'y avait pas assez de patients âgés en proportion dans les essais cliniques. Deux options sont donc sur la table. Soit la Haute Autorité de Santé recommande ce vaccin aux plus de 65 ans, et à ce moment-là, les 4,5 millions de doses que la France recevra d'ici la fin du mois de mars serviront à enrichir les centres de vaccination. Il reviendra à la Haute Autorité de Santé de trouver une place à ce vaccin certes moins efficace, mais qui se conserve beaucoup plus facilement que les doses Pfizer, en l'occurrence dans un frigo classique. L'une des pistes serait donc d'immuniser les Français de plus de 65 ans directement dans les pharmacies. Deuxième possibilité, si la Haute Autorité de Santé choisit de ne pas le recommander aux plus de 65 ans, il faudra alors ouvrir la vaccination à d'autres publics. Les soignants de moins de 50 ans pourraient en profiter et sans doute les Français plus jeunes qui ont des comorbidités.
Comme l'an dernier, le gouvernement rallonge la trêve hivernale de 2 mois cette fois. Plus d'expulsion de locataires jusqu'au 1er juin en cas d'impayé. La crise sanitaire fragilise encore plus les plus démunis, notamment sur la question du logement, comme le souligne ce matin le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et puis une bonne nouvelle qui ravira principalement les fans de Roger Federer. La star du tennis fera son retour le 8 mars prochain au tournoi de Doha. Il le confirme ce matin à la télévision suisse. Plus d'un an qu'il était absent du circuit, blessé à un genou.
Merci beaucoup. Vous êtes plutôt Nadal ?
Sincèrement, non. J'aurais vraiment du mal à choisir entre
c'est
les deux.
C'est vrai ? Ouais, Djokovic ? Ouais.
J'avoue que... Non. Federer, plutôt pour le style, la classe. Voilà. De ma part, il y a du spectacle.
Ouais, j'espère que j'arrive au bout de mes connaissances en tennis. Merci Jérôme
Lacroix.
C'est
déjà pas mal.
C'était le journal de 8h30. Il est 8h34 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Oui, et pour vous parler d'abord des bonnes nouvelles, hein, le rouge a sauté en Corrèze après que l'on ait pu évacuer. Vous savez, cette nuit, 150 personnes évacuées maintenant elles sont rentrées chez elles. La crue dans cette ville d'Argentat-sur-Dordogne, la crue s'est calmée. Elle ne se calme pas en France. En général, de manière générale, les cours d'eau sont vraiment très 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 élevés et elle est généralisée, cette crue, sur l'ensemble des régions de France. Nous allons la vivre encore aujourd'hui, demain et après-demain, car ça n'est pas fini. Nous allons avoir plusieurs perturbations, pratiquement à la cadence d'une par jour jusqu'à dimanche. C'est dire, pour aujourd'hui, quand même, un petit répit avec ce qu'on appelle le PPP, ce que j'appelle le PPP, le parapluie par précaution, quand même, sur le Nord, la Champagne-Ardenne, sur l'Île-de-France, la Picardie, la Normandie, les Pays de la Loire, sont des régions où là, la pluie sera en alternance avec quelques passages nuageux et avec sur surtout quelques rayons de soleil. En Lorraine-Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes-Bordelais, Rhône-Alpes-Auvergne, Aveyronnais, je pense à tout le monde, et le Limousin, je vous ai oublié, chers amis. Eh bien, allez, là, dans ces régions, vous allez avoir de la pluie, et beaucoup de pluie, et des pluies assez tenaces. Sur le bassin méditerranéen et sur le Midi-Pyrénées, ça sera pas mal, puisque le soleil se lève, et vous aurez donc un petit répit sur le Midi-Pyrénées, si vous en avez bien besoin. Les températures sont douces, et le reste, hein, ce sont des températures qui sont identiques à celles d'hier, entre 12 et 18 degrés, 14 à Nantes et Lyon et 17 à Bordeaux pour réveiller le monde.
J'ai envie de dire interrogation Jimmy Mohamed qui est déjà en studio avec nous. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu.
Je vous voyais un peu surpris. PPP, parapluie par précaution.
C'est pas mal.
Il y a aussi le...
PPO, parapluie par obligation.
Voilà, vous savez tout. Petite révision en cours de saison comme ça. Il est 8h35, vous restez bien sur Europe 1. L'inactivité et la télé, ennemi de la prostate. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et puis notre planète, Fanny Agostini. Et puis la revue de presque, Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, nous allons prendre soin et chouchouter un organe ô combien précieux, messieurs, la prostate.
Oui, la prostate, c'est une glande masculine qui est indispensable à la reproduction. Alors elle n'est pas très grosse, elle pèse environ 20 grammes, sauf qu'à partir de 40 ans, le nombre de cellules dans la prostate va augmenter. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. Ces cellules, elles ne sont pas cancéreuses. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est bénigne. L'hyperplasie ou l'hypertrophie bénigne de la prostate. Sauf que malheureusement, ça touche un homme sur deux à partir de 50 ans. Et dans 80% des cas, les hommes qui ont une grosse prostate ne le savent pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prostate va grossir sous l'effet de la télévision. Regardez 40 heures par semaine la télé augmente votre risque significativement d'être opéré de la prostate.
Quelle que soit la chaîne.
Quelle que soit la chaîne, effectivement.
Pardon, je précise pour nos auditeurs.
Ça a son importance. Mais
ça marche avec Netflix.
Ça marche aussi avec Netflix parce qu'en fait, l'ennemi de la prostate, c'est l'inactivité, le fait d'être sédentaire. Mathieu, je pourrais évaluer d'ailleurs votre prostate, là, rien qu'en vous regardant, puisqu'il suffit de mesurer le périmètre abdominal. Plus vous avez un gros ventre, et plus votre prostate est grosse, car il y a un lien, encore une fois, entre le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, et une grosse prostate.
Tout le monde rentre le ventre en studio. Julie, pour vous, ça sert à rien, a priori. Existe-t-il des symptômes révélateurs d'une grosse prostate ?
Oui, le signe le plus précoce, c'est de se lever la nuit, plus d'une fois, pour aller uriner. En journée, si vous devez aller faire pipi plus de 6 fois, c'est qu'il y a aussi un problème. Et si vous avez du mal aussi à vider, notamment votre vessie. Et à ce moment-là, il faut consulter l'urologue, mais surtout le cardiologue. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients qui avaient des signes urinaires modérés et importants associés à une grosse prostate, eh bien, ils avaient un risque très élevé de faire un infarctus. Je vous ai dit, il y a un lien entre grosse prostate, syndrome métabolique, hypertension. Ça veut dire que le vrai problème de la prostate, c'est le cœur. À ce moment-là, allez voir le cardiologue. Alors, pour prendre soin de sa prostate, ce qu'on recommande, c'est de manger des aliments riches en lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant qu'on trouve justement dans les pigments rouges de certains fruits, notamment dans la tomate. Il y en a beaucoup dans le concentré de tomate, le coulis de tomate, mais aussi dans la papaye et dans la goyave. Et on s'est rendu compte que les personnes qui vont avoir une consommation élevée de lycopène vont avoir un risque diminué de cancer de la prostate et d'en mourir. Et donc, j'aurais jamais cru le dire, mais pour prendre soin de sa prostate, il faut manger des tomates.
Et en plus, ça rime. Mais c'est pas vraiment de saison. Mais c'est pas de saison, que le concentré de tomates en boîte, a priori, toute ça l'année, on peut y aller. Merci Jimmy Mohamed. Et puis, on vous retrouve dans son rendez-vous de 15h à 16h. J'attire l'attention de nos auditeurs simplement sur ce témoignage que vous allez proposer aux auditeurs aujourd'hui. Celui de Julie, qui vous racontera son combat contre le cancer. On parle de cancer, oui, mais vous promettez une très belle histoire, Mathieu.
Oui, une très belle histoire, une histoire bouleversante, touchante. Soyez au rendez-vous.
Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez, c'est sans rendez-vous de 15h à 16h sur Europe 1. Il est 8h40. Évidemment, c'est pas Julie, hein, parce que j'ai parlé de Julie, j'ai dit bonjour à Julie qui est juste ici à côté de nous, c'est une autre Julie.
Voilà.
Notre planète Fanny Agostini est en ligne avec nous, bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous faites part ce matin d'une découverte scientifique parfaitement inattendue, rendue possible grâce au forage des énergies fossiles.
Oui, bah pour une fois, j'ai un truc positif à vous raconter sur le gaz et le pétrole.
C'est surprenant de votre part.
Que grâce à ces trous creusés, on creuse des trous forcément pour aller chercher les gisements. Et grâce à ces gros trous que l'on a fait très profondément, les scientifiques sont allés sonder ce qui, jusqu'à présent, était resté secret. Entre 5 et 10 km de profondeur ont été débusquées des formes de vie inédite. Lors du dernier sommet américain de géophysique qui s'est tenu à Washington, des travaux résultant des chantiers de forage ont été exposés pour la première fois et ils estiment que la vie profonde représenterait une masse 300 fois supérieure à la masse totale de nous autres les humains. C'est-à-dire que nous tous réunis, qui sommes tout de même 7 milliards, on pèse moins que toute la vie qu'il y a sous terre.
Alors à quoi ressemble cette vie souterraine ?
À ce que l'on peut nommer des intraterrestres, c'est-à-dire des aliens venus non pas d'une autre galaxie, mais du monde d'en dessous. Ce sont des créatures très petites et surtout très résistantes, des organismes unicellulaires, pour la plupart des microbes en pagaille, capables de vivre des milliers d'années sans lumière et surtout sans oxygène. Du coup, contrairement à tous les êtres vivants que nous connaissons sur Terre et qui sont régis par le mécanisme de la photosynthèse, là, ces intraterrestres qui peuplent les tréfonds du monde utiliseraient la chimiosynthèse, c'est-à-dire qu'ils tirent leur énergie de la roche.
Est-ce que nous avons un lien de parenté avec cette communauté que nous venons de découvrir ?
Alors là, pour l'instant, c'est difficile de le déterminer. Mais ce qui est clair, c'est que cette vie en profondeur a évolué séparément de la vie en surface. Les mystères que devront prochainement élucider les scientifiques, c'est comment cette face cachée du monde influence-t-elle la vie située au-dessus ? Y a-t-il un lien ou au contraire une étanchéité entre nos deux univers ? Et pour aller plus loin, sommes-nous capables d'altérer leurs conditions de vie ? Ce qui pose notamment la question de l'enfouissement des déchets, du stockage du CO2 ou encore du nucléaire dans le sol. Y aurait-il des répercussions plus en profondeur ? Tout ce monde là, qui était auparavant considéré comme totalement neutre et stérile, nous dévoile aujourd'hui vraiment un champ extrêmement vaste pour les études, aussi vaste que l'exploration des autres planètes du système solaire. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire que ce monde est un macrocosmos plus vaste encore que la réunion de tous les continents réunis sur la croûte terrestre.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, on regarde en général ce qu'il y a sur la planète. Là, on était à l'intérieur de la planète. Avec vous, Fanny Agostini. Merci beaucoup. 8h43 sur Europe 1. La revue de presse, Nicolas Canteloup, dans quelques instants. Julie s'installe. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, c'est à vous pour le rappel de l'actu en quelques titres.
Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est le gouvernement qui prolonge la trêve hivernale jusqu'en juin. Il n'y aura donc pas d'expulsion de locataires d'ici là. Et donc on dit du coup bravo à Jean Castex qui du coup a sauvé son poste jusqu'à
cet été, bah oui.
Au moins. Et puis l'autre info, c'est le fiasco de l'appel d'offres. Nous en avons parlé dans les différentes éditions du journal. Le fiasco de l'appel d'offres pour les droits télé du foot français. Mmh. Ni Beansport ni Canal+ n'ont fait d'offres et les autres prétendants n'ont rien proposé de suffisant. Mmh. En même temps, c'est vrai que c'est les soldes. Il faut faire des promos. Tiens, par exemple, pour un Dijon-Nîmes à acheter, le Brest-Strasbourg vous est offert. Voilà, par exemple, je sais que Virginie Fupin ne va pas être contente, mais quand on a des produits dignes du Lidl, on brade comme chez Lidl. Voilà. Allez, une petite dernière.
Oui.
La chasse au restaurant clandestin.
Ah.
Ça va sonner bizarre quand les jeunes d'aujourd'hui raconteront leur folie de jeunesse à leurs gosses. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir chopé, Pardon, j'ai refait. Moi, quand j'étais jeune, c'est le gosse qui parle, ça sera facile. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir été chopé en train de manger une blanquette de veau avec des copains. Mais je ne regrette pas, c'était de la bonne. Et oui, moi, Julie, drôle d'époque,
comme vous dites. Merci, Mathieu. Positif au Covid-19, Édouard Philippe s'est isolé dans son appartement du Havre. Bonjour, Édouard Philippe.
Oui.
Comment vous sentez-vous, dites-nous.
Bonjour, Monsieur Béliard, Madame Julie, Jimmy Cabrol, Laurent Mohamed. Alors, vous me demandez comment je me sens. Écoutez, je me sens mou, je me sens fatigué, inutile. J'avance à deux à l'heure. C'est bien simple, j'ai l'impression d'être Jean Castex. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a enfin quelque chose de positif au Havre. C'est mon test Covid. Voilà.
Ils seront contents, les Havrais. Allez, donc vous restez isolé.
Voilà, tout à fait isolé. Bon, après, franchement, ça ne me fait pas peur. Politiquement, ça fait déjà quelques mois que je suis isolé. Macron ne veut plus de moi et la droite non plus. J'ai l'habitude.
Eh ben, bon courage, Édouard Philippe. Et bonne journée. Un nouveau conseil de sécurité aura lieu demain à l'Élysée. Bonjour, Olivier Véran.
Oui, bonjour à tout votre cabinet. Pour la prostate, mangez des tomates.
On l'a dit
pour
tout
la WC, mangez des crustacés. Pour le Covid, mangez des protides. 10 ans d'études, et ça y est, le secret de la médecine est révélé, c'est Jimmy O'Hanet qui nous l'a donné, c'est simplement, il faut que ça rime, c'est de la poésie, la médecine. Mais j'aimerais vous dire que tout est sous contrôle.
Okay. Au fait, c'est quoi exactement ces conseils de sécurité?
C'est très simple. C'est comme les conseils de classe, mais c'est un conseil de classe du Covid. On se réunit tous et on regarde si le Covid a bien travaillé ou pas. À la différence, bien sûr, que c'est l'inverse de l'école. Si le Covid a des bons résultats, c'est nous qui redoublons.
On peut avoir une tendance en exclusivité, bien sûr.
Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Regardez le perron de l'Élysée.
Ouais.
Si Macron vient au perron de l'Élysée, c'est que ça va mal. S'il envoie Castex, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer. Et s'il envoie son chien Nemo, c'est qu'il n'y a rien à dire du tout. Là où la frontière est mince, c'est entre Nemo et Castex. Là, la frontière est mince.
Olivier Véran, merci, on a bien avancé. La droite ne va pas fort, mais si on en croit le Parisien, le nouvel espoir de la droite, c'est Michel Barnier. Monsieur Brexit, Nicolas Sarkozy, bonjour. Alors, vous en pensez quoi de Michel Barnier?
Ah, j'adore. J'adore vraiment. Non, et puis franchement, depuis longtemps, moi, je l'ai vu dans Je préfère qu'on reste amis, je l'ai vu dans ses One Man, hein? Elle est tellement sympathique.
Non, mais ça, attendez. Non. Ça, c'est Michel Barnier dont vous parlez, que vous l'avez vu au théâtre, Michel Barnier, hein, Je préfère qu'on reste amis, tout ça. Moi, je vous parle de Michel Barnier.
Barnier, qui c'est que vous dites là?
Non, Michel
de
Barnier.
De qui c'est que vous parlez?
De Michel Barnier, vous savez, le grand, là, avec des cheveux blancs argentés, plutôt classe.
Ah oui, ah, ça y est, oui, le coton-tige avec une tête de victime, oui, ça y est, je l'ai. Non, parce que je comprenais pas de qui vous parliez, parce que nous, avec Hortefeux, on l'appelle l'autre con, ou la baronne, ou patate, à cause de la patate chaude qu'il a toujours dans la bouche quand il parle. Non,
ça balance. Ils sont malades. Alors, le Paris.
Pourvu qu'ils ne deviennent pas président, parce qu'on serait mal, Julie.
On sera mal, hein, ouais. Alors, le Parisien précise, Michel Barnier est celui que la droite n'attendait pas.
Ah, mais c'est sûr que la droite ne l'attend pas. Hein. Le problème, c'est surtout que c'est la France qui ne l'attend pas non plus. Hein. Mais alors, oui, c'est drôle. Mais pas du tout, elle n'attend pas du tout, la France. Remarquez, c'est très rare d'attendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonne chance, la droite. Tu vas voir que je vais être obligé de reviendre. Mais si je reviendrai, ce sera vraiment pour rendre service, bien sûr.
Bien sûr. À bientôt, Nicolas Sarkozy.
À bientôt.
Jean Castex a donc annoncé, à la place du reconfinement, un durcissement des contrôles et une fermeture des frontières. Bonjour, Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame, bonjour Julie Métis, et bonjour à Bruce Wallid.
Quoi?
Oui, Bruce Willis. Oui, c'est comme Bruce Willis, mais version Warzazat. Vous pouvez redire la fin de la phrase, s'il vous plaît, madame Julie?
Je parlais de la fermeture aux frontières.
Oh, comme c'est bon.
Fermeture des frontières.
Redites-le encore une fois, s'il vous plaît.
La fermeture des frontières.
Oh, oui, comme c'est bon. On dirait Meg Ryan quand Harry rencontre Sally.
Oula, je ne referai pas la scène du bistrot.
Je vous rappelle, madame, que je l'avais dit en proms, hein, la fermeture des frontières, il y a un an déjà. Hein, donc j'ai envie de dire allô quoi, hein, comme le disent Nabila et Ségolène Royal, il faut se réveiller, le gouvernement. Hein. Vous noterez que, comme par hasard, je suis première dans les sondages et on me pique mes idées.
Eh bien, puisque vous avez toujours un an d'avance, annoncez-nous la bonne mesure pour dans un an, tiens.
Eh bien, madame, dans un an, au Rassemblement National, nous préconisons la fermeture des frontières.
Bah, c'est la même idée.
Ben oui, forcément. Faites pas l'étonner. Depuis 30 ans, le FN, le RN, c'est la même idée. Hein, les immigrés dehors, il se trouve que ça tombe sur un timing où l'histoire rencontre nos idées. Voilà, le Covid donc nous a donné raison. Le RN en a rêvé, le Covid l'a fait. Ça arrive presque.
Merci Marine Le Pen. Les magasins IKEA doivent fermer leurs portes pour se plier aux nouvelles restrictions. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour madame Julie. Monsieur
Béliard, bonjour à papy et mamie. Un papy qui ne va plus taper sur les doigts de mamie pendant qu'il assemble les pièces de son armoire crurule folle. Et oui, les Ikea sont fermés.
Sauf celui de... Attendez, sauf celui de Vélizy, c'est près de Paris, là, qui fait moins de 20 000 mètres carrés.
Oui, certes, certes, mais enfin, ce n'est pas une raison pour s'y précipiter. Il faut être raisonnable. Et je le rappelle à papy et mamie. Donc, on y va mollo sur les étagères Schmorglunk.
Ouais.
Hein. Par ailleurs, il sera impossible d'acheter après 17 heures, je le rappelle.
Oui.
Hein. Que ce soit les armoires à Malmuf, les buffets Buchenhof, les bibliothèques Starfatmi. J'ajoute que les Klumps, les Plofs, les Chuchupis, les Wagner et les Olofton, les Borgmir, les plics, les plocs, les plus, les clacs, les trucs, sont déclarés non essentiels dans le dernier décret.
Eh bien, c'est noté.
Sauf, sauf bien sûr, motif impérieux pour les clowns, bien évidemment.
D'une manière générale, tous les magasins de bricolage sont concernés, monsieur Casto, monsieur Castex.
Oh, 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 très drôle, ce n'était pas dans le test. Le texte, pardon. Monsieur Casto, très bien, très drôle. Et écoutez, je le note. Resté haut, très bien. Oui, alors écoutez, croyez bien, chère Julie et Édouard Leclerc, oh, c'est bon, que ça n'est pas de gaieté de cœur. Nous-mêmes, au gouvernement, nous faisons du bricolage depuis un an et personne n'est dupe. Hein, vous avez vu nos mesures, on sent bien que ce ne sont pas les meilleurs ouvriers de France qui sont à la manœuvre. un brin d'autodérision ne fait pas de mal.
Eh bien, merci, monsieur le Premier ministre. On va parler de la Ligue de football professionnelle. Tiens, pour terminer, qui remettait hier à la vente les droits télé de la Ligue 1 après le fiasco du diffuseur Mediapro. Mais ni Canal ni Bein Sports n'ont souhaité enchérir.
Ouais, salut Julie.
Ah,
ouais, ça, salut l'équipe, salut les bras cassés. Et il est encore au vestiaire, Vandel, là ou
pas? Ben oui, il va arriver, là, tiens. Bonjour, Fabien Barthez.
Il entre dans le studio.
Bonjour, Fabien. Ouais. Alors, vous êtes sorti récemment de votre silence médiatique pour soutenir Michel Moulin à la présidence de la Fédération. Vous avez un avis sur l'échec des négociations entre la Ligue et les diffuseurs?
Ouais, écoute, je me suis intéressé au sujet, tu vois, pour pas dire de conneries dans les médias. Donc, j'ai analysé tous les partenariats entre les ligues allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes. Mm-hmm. Tu vois, j'ai regardé qui diffusait quoi.
Ouais.
J'ai vu plus de 70 matchs, tu vois, de différentes fédérations européennes. Et je crois que là, c'est bon. Là, ça y est, je crois que là, maintenant, j'ai une vraie conclusion qui tient la route.
Ah, eh ben, écoutez, on vous écoute. Écoutez, on vous écoute. Pardon.
Ben, la Ligue 1, c'est à chier. Voilà, c'est des clubs nuls qui représentent des villes où on n'irait pas vivre, tu vois. Même en Espagne, tu vois, Cadix contre Bilbao, mais ça sonne, tu vois, ça fait rêver. En France, on fait jouer Dijon contre Brest, bon, mais ça fait pas déjà rêver les Français. Alors, pour vendre ça à l'international, bonjour. Hein.
Alors, on a quand même des bons joueurs, Mbappé, Neymar... Et d'autres, bien sûr.
Ouais, ok, on a Neymar. Mais bon, Neymar, non, c'est vrai, c'est la samba, c'est le rythme, c'est le soleil, ok. Mais nous, on l'expédie à Lorient pour jouer, le pauvre. C'est comme si on mettait les danseuses du Crazy Horse dans une station totale sur la 86. C'est du gâchis, quoi. À l'image.
La station totale sur
on
la 86.
On a l'image. Merci beaucoup. Nicolas Cantelou, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. Merci, Julie. Il est 8h57. 8h57, il est là, Philippe Vandel. Mais Culture oui. Média, la matinée continue sur Europe 1 de 9h à 11h.
Bonjour Mathieu, et quelle matinée. Deux infos médias du jour pour démarrer, qu'en premier lieu la colère des radios privées sur de possibles nouvelles règles en matière de pub pour les radios publiques. Analyse avec la présidente du Pôle News du groupe Lagardère, c'est votre patronne et la mienne aussi, Constance Benquet, et le président du syndicat des radios indépendantes, Alain Liberty. Et puis un documentaire alarmant sur Arte, rien que le titre, La Grande Malbouffe. On apprend notamment qu'un cordon bleu, ils se sont mis à refaire un cordon bleu industriel, il y a 30 composants à l'intérieur et pas seulement de la viande et du fromage. On sait que la réalisatrice c'est Maud Gangler. Et puis au sommaire également la nouvelle formule du magazine GQ. Les ventes ont été divisées par 2 en 5 ans, mais le site cartonne, 7,5 millions de visiteurs uniques. Il y a un nouveau rédac chef, Olivier Lalanne, pour relancer le titre, il sera avec nous. Et puis enfin, Payette, Pierre Palmade. Ce soir, il a une grande émission sur M6 à 21h avec pas moins de 35 stars dans l'émission, que des gros noms. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'on va voir? Il nous le dira ici.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h, c'est sur Europe 1, bien sûr. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, vous le savez. On va vous le raconter.